7h28. 45 millions, c'est le nombre estimé de photos et de vidéos d'enfants exploités sexuellement sur le web. Donc, ce sont des chiffres qui explosent. C'est dans le cadre d'un reportage de journalistes du New York Times qu'on a pu apprendre, évidemment, ces dernières informations. Ça a toujours été un problème, mais c'est un problème qui prend de l'ampleur. Je vais en parler sur, disons, le plan mécanique avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est le chef de la cybersécurité au commissionnaire du Québec. Jean-Philippe, bonjour.
Bon matin.
D'abord, 45 millions, évidemment, c'est beaucoup. Cette pornographie-là qui implique des enfants, on trouve ça où principalement sur ce qu'on appelle le dark web, j'imagine?
Oui, pour plein de raisons, évidemment. C'est des réseaux qui favorisent l'anonymat. Bon, il y a une couche de chiffrement généralement par-dessus, mais c'est pas exclusivement le dark web. Notamment dans l'article, on le mentionne qu'une grosse partie, en fait, de ces images-là, ces vidéos-là, sont transitées par Facebook Messenger, qui est une application standard que pratiquement tout le monde a installé sur son téléphone. Donc, c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait qui est problématique. De plus en plus aussi, on parle aussi, Facebook, il y a quelques mois, a annoncé qu'elle voulait chiffrer les communications Messenger. Donc, vraiment, tout ce qui est de regard de l'externe, ça devient extrêmement difficile, voire impossible de déchiffrer l'information, surtout en temps réel. Donc, c'est un mix des deux. Hein. On a tendance à aller sur le dark web. Oui, il y a des forums, il y a des historiques, il y a des précédents aussi sur le dark web de forums. Mais je vous dirais que ce qui est transité dans le day-to-day, si on peut appeler ça de même pour ce genre de trucs-là, ça n'est pas vraiment de l'application qu'on choisit. Il y a différentes applications là, comme Telegram, Tox ou WeChat ou peu importe, c'est des applications qui sont légitimes à la base d'envoi d'informations puis de messages qui permettent évidemment la transmission aussi d'images et vidéos qui mettent l'emphase sur la vie privée puis la sécurité des communications. Donc, évidemment, c'est un arme à double tranchant. Ça attire les pédophiles aussi, les criminels. Donc, ça peut être là-dessus. Mais il y a des précédents historiques sur le Darknet au niveau des forums, des gros forums de discussion.
Peux-tu me donner des exemples de précédents historiques?
Probablement le plus connu, c'est une histoire très intéressante, c'est celui de Child's Play. C'est un forum qui regroupait 1 million de membres. Qui est un forum de pédopornographie. Bon, il y avait 1 million de profils enregistrés, mais ce forum-là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que de 2016 à 2017, a été infiltré par la police australienne. Ils ont réussi à prendre le contrôle d'un compte administrateur, essentiellement, du forum. Ils ont pu opérer le forum pour récolter un maximum d'informations sur ce qu'ils disaient les producteurs sur ce site-là, dans le fond, c'est ceux qui produisent du contenu original de pédopornographie, qui est estimé à une centaine de producteurs. Pour des centaines de milliers de membres. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que la police a opéré ce site-là pendant 1 an de temps pour récolter assez d'informations sur assez
d'individus.
Évidemment, c'est assez controversé comme méthode parce que sous leur égide, le contenu a doublé en taille. Il y a eu 2 fois plus d'images puis de vidéos d'agressions sexuelles envers des enfants qui a transité sur ce forum-là. Il a explosé en membership. Donc, il y a un article super intéressant du journal norvégien VG qui parle vraiment de cette opération Artemis, qui appelait ça, c'est le Task Force Argos en Australie qui a fait ça. Eux autres, ils disent, regarde, nous, on a besoin de faire ce genre d'opération d'infiltration-là, même si ça prend du temps, pour essayer de capter un maximum de producteurs puis de consommateurs de pédopornographie. Évidemment, là, d'un autre côté, il y a les parents des enfants, vraiment, qui se retrouvent, les photos se retrouvent sur ce site-là, puis ils disent, ouais, mais c'est parce que là, l'image de ma fille, mes enfants, ils transitent de gauche à droite.
Il y a une des inquiétudes de gens qui, malheureusement, ont été abusés. C'est souvent un proche, c'est souvent un parent. Mm-hmm. Est-ce que ces photos-là, tu sais, vont toujours traîner dans le décor du web? C'est-à-dire, moi, je me suis fait agresser, j'avais 8 ans, je suis rendu à 20 ans. Est-ce que cette photo-là de mon agression va se promener?
On dit souvent que l'Internet n'oublie jamais. C'est un peu vrai. C'est pas tout le temps vrai, là, mais bon, dans certains cas, s'il y a une demande pour les photos, le contenu, probablement que ça va continuer de circuler. Ça va circuler, évidemment, dans les cercles fermé de pédophiles ou de gens qui consomment de la pédopornographie. Mais la monnaie d'échange sur ces forums-là, là, c'est la production de photos originales. C'est pas de l'argent, c'est pas des bitcoins. On n'achète pas des photos à coup de bitcoin, à coup de monero ou à coup d'argent américain, peu importe. Es-tu capable de produire du contenu original? Oui, t'as une valeur.
Peux-tu agresser quelqu'un puis nous le montrer?
Essentiellement, c'est ça. Puis c'est ça la monnaie, genre de qui est utilisé, la monnaie fiduciaire.
Je reviens à ce que tu disais tantôt pour Facebook Messenger. Mm-hmm. de vouloir protéger ma vie privée, protéger mes données, ce qui en soit très bien, là, puis on sait que Facebook a une côte à remonter,
exact.
Ça protège aussi des gens qui veulent cacher des trucs comme ça.
Ça a toujours été l'élément de lame double tranchant de ce genre de technologie-là. C'est que le meilleur exemple de ça, c'est le réseau Tor. On a parlé quelques fois ici. C'est un réseau qui prône la sécurité des communications, la vie privée, le respect de la vie privée, etc. Ce qu'on voit dans les nouvelles, évidemment, sur ce réseau-là, c'est des trucs de vente d'armes, de pédopornographie, de vente de drogue, etc. Ça reste une fraction de l'utilisation. La majorité de l'utilisation, c'est des militants dans des pays, des dictatures répressives qui veulent communiquer sans se faire mettre en prison. C'est des agents du FBI qui utilisent ce canal de communication-là pour justement communiquer de manière sécuritaire. C'est financé en partie par l'État américain et par les autres grosses entreprises. Les journalistes les utilisent pour communiquer avec leurs sources de manière leurs sources discrètes. Donc, il y a plein de bonnes raisons d'utiliser ça. Mais malheureusement, la technologie derrière ça fait que ça va attirer aussi du monde avec des dessins malicieux. Puis ça sera toujours la terrible dichotomie de ces technologies.
Mais dans le fond, c'est une course à la technologie. C'est-à-dire que je regardais dans un procès où on a encrypté beaucoup de données, ça devient compliqué à aller chercher, on n'a pas nécessairement les codes pour y avoir. Donc, plus la technologie avance, plus en même temps ça devient complexe.
Oui, puis il y a un exemple de ça, un autre exemple de ça par rapport à l'importance d'être à jour au niveau de la technologie, c'est qu'il y a quelques années de ça, le FBI a amené en cours un présumé pédophile dans un cadre justement d'un forum sur le Darknet. Dans le procès, le juge leur a demandé, ben là, vous devez révéler comment vous avez fait pour savoir que c'était lui, c'était ce gars-là. Ils ont refusé de dévoiler leur information parce que c'était supposément une faille exploitée qui n'était pas connue du fabricant du Furteur Tor à ce moment-là, qui est dans le fond un fork de Firefox, qui est un clone du browser Firefox. Donc, ils ont refusé de révéler leur moyen technique. Donc, le procès tombe à l'eau. Donc, le suspecté pédophile, qui était presque assurément un pédophile, on s'entend, lui, ben, il est libre, là, présentement. Fait que, il faut jongler entre, on est-tu prêt technologiquement à assumer les actions qu'on fait, mais en même temps, on les révèle pas. Mais si on les révèle pas, ben, on peut pas aller en cours avec ce monde-là. La police fait face à des enjeux extrêmement difficiles. Puis on parle même pas du manque d'effectifs qu'ils ont en police, puis l'impact traumatique et psychologique sur les policiers qui enquêtent ce genre d'affaires.
C'est effrayant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, chef de la cybersécurité au commissionnaire du Québec. Avec nous maintenant, le Dr Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, Dr Chamberlain.
Bonjour.
Ma première question, quand vous voyez ça, 45 millions, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de pédophiles en liberté, qu'il y a plus de consommateurs de pornographie qui impliquent des enfants?
C'est clair. C'est clair qu'il y en a plus. Parce qu'à cause de l'accessibilité, est-ce qu'il y a plus de gens qui ont cette perversion-là d'être pédophile? Non, mais les possibilités de l'actualiser des gens chez qui ça serait resté sous forme de fantasme, il y en a beaucoup plus qui risquent d'aller plus loin. Et je pense que le gros problème est là à deux niveaux. Le premier, c'est le fameux phénomène. Le premier phénomène du fait qu'on est satisfait après un certain temps de quelque chose, et la même chose fait que tout à coup on sera plus satisfait et on en veut plus. C'est connu dans tous les domaines, c'est connu dans le phénomène dans la consommation de drogue, mais c'est aussi connu dans les perversions. Ce qui, à un moment donné, va être pour nous plaisant, va perdre son intérêt et on va vouloir aller plus loin, soit en intensité, soit en fréquence. Et là, les articles qu'on lisait, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. C'est plus juste de la pédophilie. C'est rendu de la pédophilie où il y a de plus en plus de sadisme et même vers la fin, c'est plus du sadisme envers les enfants que de la pédophilie elle-même. Donc, à ce moment-là, une espèce d'accélération dans l'intensité de ce qu'on va montrer qui va aller de plus en plus loin. Puis l'autre phénomène, c'est un peu la banalisation de ça pour ceux qui ont ce fantasme-là. Parce que quelqu'un qui est tout seul chez lui avec son fantasme, s'il n'est pas complètement antisocial, va se sentir un peu coupable, va se dire « ça n'a pas de bon sens que je pense ça », va rester dans son coin. Mais à partir du moment où il rencontre des gens qui partagent la même chose, ça va le banaliser. Puis l'effet pervers, puis c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, à partir du moment où on dit à ces gens-là « pour pouvoir avoir accès au matériel qui vous excite, vous devez vous-même en produire ». Mais là, ça devient épouvantable. On tombe dans un cercle vicieux où des gens qui avaient peut-être simplement un fantasme se mettent à être des consommateurs et peut-être même éventuellement des producteurs. C'est épouvantable.
J'en ai rencontré des pédophiles dans ma vie là, pour faire des entrevues. Puis je vous donne un argument qu'on m'a toujours servi. un qui m'a dit, moi, je m'attaquerai pas à des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou des petits gars, des petites filles, ça m'intéresse pas. Mais à 12, 13 ans, et même à 14 ans, c'est une autre affaire, c'est une question de culture. À une époque, c'était permis, aujourd'hui, c'est interdit. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Il y a plusieurs choses. Premièrement, on dit pédophile, mais c'est très large. Déjà, il faut faire la distinction des pédophiles exclusifs et non exclusifs. Un pédophile non exclusif, c'est quelqu'un qui est excité par les enfants, mais qui peut être excité par plein d'autres choses. Donc, il y a un exutoire pour sa libido. Un pédophile exclusif typique, ce qui va l'exciter, c'est des enfants chez qui les caractères sexuels secondaires sont pas apparus, chez qui les enfants ont pas de poils, les seins sont pas développés. Donc c'est vraiment des enfants qui vont les exciter. Et là, c'est sûr que si vous me dites quelqu'un a 15 ans, n'a l'air de 18, c'est sûr que le dommage est moindre. Mais si on s'attaque vraiment à des enfants qui sont même pas encore des adolescents, là, ça devient un gros problème.
Est-ce que ça se soigne?
Difficilement, très difficilement. Comme on disait, ceux chez qui c'est non exclusif, on va travailler le côté sain pour leur dire, écoutez, vous renoncez à ça, vous avez quand même des possibilités d'avoir une sexualité normale. Chez les autres, c'est extrêmement difficile. Ce qui va être excitant. À ce moment-là, pour eux, il y a un deuil à faire, là. Ceux qui ont vraiment ce problème-là doivent faire le deuil d'une certaine sexualité, accepter la médication, que leur libido tombe, et faire de la thérapie pour pas faire de dégâts dans la société.
Mais ce que j'allais dire, dans le fond, c'est que vous n'allez pas convaincre en thérapie quelqu'un qui est attiré par des enfants d'être attiré par des adultes, par des hommes ou des femmes matures, là. Il va pas changer ses préférences comme ça.
Non, ça change pas ça. Faut pas se faire d'illusions. C'est ce qui fait que certains vont devenir très dangereux. Ceux qui vont le nier, ceux qui vont dire qu'ils ont pas ça et qui sont des pédophiles exclusifs, qui n'ont pas fait le deuil de renoncer à ça, c'est dommage, mais ceux-là, il y a un gros problème, ils sont dangereux. Ceux qu'on va pouvoir réussir à aider, même ceux qui sont des pédophiles purs, c'est ceux qui vont dire « Oui, j'ai un problème, donnez-moi de la médication, je vais renoncer à ma libido pour justement, pour être sûr que je ne fais pas de tort à personne, puis pour garder ma liberté aussi. » Mais à un moment donné, il y a des choix à faire.
OK. Bref, vous ne changerez pas leur nature, vous allez essayer de les empêcher d'agir, que ce soit par médication ou par thérapie.
Exactement. Ça, c'est pour les pédophiles purs. Ouais. Pour les autres, on peut développer des intérêts latents, ça, on peut toujours, mais quelqu'un qui est un pédophile pur, on ne changera pas ça.
Merci beaucoup, Dr. Chamberlain.
Ça fait plaisir.
Merci, Dr. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Je vous dis, là, c'est à lire. Et évidemment, je n'irai pas dans ces détails-là, mais une description de ce qu'on remarque. Et Dr. Chamberlain a raison, de plus en plus violent, de plus en plus de jeunes enfants qu'on retrouve exploités. Puis il faut imaginer l'impact pour ces gens-là qui subissent ça. Souvent, c'est de la part d'un proche. Il y a quelque chose. Et pour conclure, c'est que les policiers, malheureusement, n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour pouvoir les pincer, pour pouvoir les coincer. Il y a des obstacles technologiques. Mais quand la priorité, c'est la lutte au terrorisme, ben, tu as moins d'argent pour le pédophile qui est seul dans son salon puis qui se promène comme ça sur le web. 7h41 minutes.